Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes généralement, mais là on est dans la série de rentrée, donc 4 trucs cool en à peu près 20 minutes. Je suis Patrick Béja, accompagné toujours de Diraen, Cassim et Karine. Vous allez bien messieurs, dames ?
Tout à fait.
Tout à fait.
Tout va bien.
Magnifique, réponse unanime, tout le monde est hyper positif, c'est Positron. On va vous recommander des trucs assez sympas et je vais commencer immédiatement sans perdre de temps avec une série qui est assez chère à mon cœur et qui est vraiment particulière, qui s'appelle Good Morning Call. Alors, Good Morning Call, c'est une série, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, une série japonaise qui est sur Netflix, hein, comme d'habitude, que je recommanderais aux fans de trucs japonais en général. C'est une série live, hein, c'est de live action, c'est des acteurs, hein, c'est pas du dessin animé, mais c'est tiré d'une BD qui est une BD shoujo manga, c'est-à-dire manga pour filles, pour adolescentes, et donc c'est un petit peu romance quoi, c'est même très romance. Et c'est une série que j'ai découvert quand j'étais au Japon, bah sur Netflix justement, il y a quelques mois de ça, et avec ma femme on est complètement tombé amoureux de cette alors on peut le dire, de cette connerie, parce que c'est vraiment complètement idiot. Vous pouvez en fait, au début, on se disait que les acteurs étaient super mauvais, mais je crois qu'en fait, ils sont pas si mauvais que ça et qu'ils ont très bien réussi à transposer la bêtise de la BD elle-même. C'est-à-dire, quand je dis la bêtise, vous savez, dans les BD, il y a des moments où les personnages se transforment en super difformes, en SD, c'est-à-dire en tout petit, et ils font les idiots, ils ont des expressions hyper caricaturales, machin. Et là, ils font un petit peu ça. Et le personnage principal, qui s'appelle Nao, est complètement la fille, un des archétypes de manga ou d'anime japonais, la fille un petit peu bête, mais pleine de bonnes intentions, qui se casse la gueule partout, qui rêve, qui rêvasse un petit peu tout le temps, qui space out complètement et qui n'écoute pas ce que les gens disent, enfin... C'est pas aussi fort que dans une BD ou dans un manga ou dans un animé, mais il y a des petites touches de ça qui rendent la chose assez attachante et en même temps irritante, parce que comme je vous le dis, c'est bête quoi. Mais on peut pas s'empêcher de s'y attacher malgré tout. Enfin, on peut pas. Si, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent. Nous, on n'a pas vu. Et c'est 17 épisodes. C'est horripilant parce que elle est bête. Le mec, il est irritant au possible. Les personnages sont débiles, mais il n'empêche que c'est un truc qui a son charme aussi.
C'est un truc qu'on adore détester en fait.
Pas vraiment, parce que c'est pas mauvais, ils sont dans l'intention qu'ils ont tracée, tu vois, ils sont vraiment dans la retranscription du manga. Donc c'est pas que c'est mauvais dans le sens où c'est mal joué ou c'est mal réalisé ou tu vois, c'est pas un truc qu'on déteste parce que c'est objectivement mauvais.
C'est pas quelque chose que les Européens trouvent drôle mais qui n'est pas drôle à la base.
Non, c'est pas ça, c'est vraiment fait pour être drôle et bête à la base. Mais le truc, c'est que c'est tellement... les personnages sont tellement bêtes ou antipathiques que tu peux ne pas aimer. Mais en même temps, ils sont attachants. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà connu ce genre de choses, avec peut-être même des séries japonaises spécifiquement. Mais si vous ne l'avez jamais expérimenté, je pense que c'est un truc à tester. Et... encore une fois, c'est peut-être un peu plus accessible parce que c'est une série avec c'est des acteurs, c'est pas une série animée, et donc peut-être que vous pourrez intéresser d'autres personnes à ce genre de truc. C'est complètement cucu à l'eau de rose, mais c'est moi je trouve ça vraiment, c'est adorable. À la fin, je vous raconte, on partait du Japon à une date spécifique et le dernier épisode passait pile à cette date. C'était sur Netflix, il y avait toutes les semaines, et en fait on était désespérés parce qu'on se disait on n'allait pas voir le dernier épisode, on pensait pas qu'il serait disponible en Europe, et du coup on a pris la, heureusement on pouvait, dans le train qui nous amenait à l'aéroport, on avait la connexion 4G et on a pu voir le dernier épisode dans le train à genre je sais plus 6 ou 7 heures du mat, pour quand même voir le dernier épisode. Donc on a été sauvés, mais c'était l'angoisse, on était vraiment terrifiés à l'idée que on pourrait pas le voir. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je recommande, particulièrement si vous êtes fan du Japon quand même. Je dirais que c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les fans. Mais c'est à regarder quoi.
Ben moi je regarde la vignette sur Netflix et je pense que la vignette se suffit elle-même. je crois que ça résume tout. J'ai très envie de voir
la vignette sur Netflix.
Ben, tu as le héros avec la tête légèrement penchée vers le bas, son sac qui tient négligemment sur l'épaule, et tout ça avec un petit blur tout ouais. autour. Ça a l'air très ça a l'air magnifique.
Bon, écoute, regarde ça et puis tu me diras ce que t'en auras pensé. C'est bon, j'ai presque envie de commencer à en parler et de faire les onomatopées qu'elles font dans les trucs. Et bref. Quand elles se mettent à crier « Nao Marina !» Et t'es là « Ah oui, mais elles sont tellement mignonnes, elles sont tellement connes !» Enfin bon, bref. Voilà, c'est Good Morning Call. J'espère que je vous aurai convaincu. Diraen, convainc-nous maintenant.
Moi, j'ai pété l'ambiance directe parce que moi, ma recommandation, ça s'appelle « Les portes de la mort ».
Ah bah voilà, après la joie et la légèreté des séries japonaises.
Voilà, donc moi, c'est une série de romans de fantasy. Dont les auteurs sont Margaret Weis et Tracy Hickman.
Ah oui, d'accord. C'est des auteurs de fantasy hyper connus. C'est Dragonlance.
Ah bah c'est Dragonlance. C'est cette série de romans est connue par les fans de fantasy. Donc c'est quelque chose qui a un peu d'âge parce que il y a 7 tomes qui ont été publiés entre 1990 et 1994. Et à pitcher, c'est un peu l'enfer. Hein. J'ai essayé de retourner dans tous les sens, mais je sais pas quand je vais faire. En gros, Les Portes de la Mort, c'est donc 7 tomes dont les 4 premiers se déroulent sur des planètes différentes. Donc le premier se déroule sur la planète de l'air, le deuxième sur la planète du feu, le troisième sur la planète de la pierre et le quatrième c'est l'eau. Et on suit un espèce de guerrier avec son chien qui s'appelle Aplo ou Alpo, je sais pas. Aplo.
J'y ai pensé aussi, Kassim. C'était Aplo tout de suite pour moi. Pardon, continue.
Je suis un peu dyslexique, alors des fois j'ai tendance à me mélanger dans les noms. Bref, et donc il a une mission qui est de traverser ces différents mondes à travers les portes de la mort. Et la série de bouquins est absolument extraordinaire parce que donc sur les 4 premiers tomes, on visite avec lui des univers totalement différents et extrêmement dense, varié, cohérent. Enfin, c'est vraiment top. Et voilà. La seule petite difficulté qu'on pourrait avoir sur la série, c'est sur les 2 premiers tomes qui, ils démarrent, ils sont un peu poussifs. Et puis surtout, quand on passe du premier au deuxième tome, tous les personnages qu'on a découverts dans le premier tome et auxquels on s'est attaché disparaissent complètement, puisque on arrive sur une nouvelle planète et en plus on commence, le héros qu'on suit n'est pas encore un protagoniste. Donc on découvre des nouveaux personnages et c'est assez déstabilisant. Mais à partir du tome 3, on a pris le pli et en fait quand arrivent les tomes 5, 6 et 7 qui sont le moment où tous ces univers c'est pas le moment où les univers se rejoignent, mais tout ce qui a été mis en place dans les 4 premiers tomes commence à faire sens, à émerger. Les tomes 6 et 7 sont absolument grandioses et je ne me souviens même plus des séparations entre les tomes 5, 6 et 7 tellement je les ai enchaînés.
D'accord, mais les 4 premiers, c'est presque des livres complètement, enfin qui n'ont pas de rapport, sauf le personnage principal, c'est ça ?
C'est ça. Les 4 premiers pourraient même être lus indépendamment les uns des autres, mis à part que en effet, Aplo finit par apparaître systématiquement et que on suit quand même une évolution du personnage qui au début est très neutre, très monolithique et qui va au fil de ses aventures gagner un peu en relief et en subtilité. Mais ceci mis à part, il pourrait presque être lu.
Ça rappelle le principe de l'univers Marvel au cinéma, presque, du coup, de Oui, d'avoir mais des alors, histoires.
Ouais, mais alors du coup, enfin, c'est.
Non, mais pas dans la scénarisation, mais dans le côté des trucs indépendants qui se rejoignent oui. Et qui n'ont pas tant après la réunion.
Ouais, c'est ça. C'est dans le principe, c'est un peu ça. Mais ça, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs romans de fantasy, enfin, un des meilleurs cycles de fantasy que j'ai lu. Et vraiment, le style d'écriture est très très accessible et ça mélange très bien. Enfin, il y a des moments terriblement drôles. Il y a des personnages qui sont récurrents à tous les univers et qui tournent au running gag. Il y a des références un peu à la culture geek. Enfin, pour un bouquin de 90, c'est assez étonnant et vraiment je recommande très 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 chaudement. Du même coup, si on n'est pas fan de fantasy, ça peut être une très bonne porte d'entrée, les portes de la mort.
D'accord. Voilà, allez-y, passez, très bien. mais du coup, dans les tomes, les derniers tomes, est-ce que le plaisir de ces derniers tomes vient du fait aussi que dans ceux d'avant, il y a eu des trucs qui faisait peut-être pas sens ou qui ont été posés, et puis tout à coup dans les tomes suivants tu te dis ah oui ok donc c'est pour ça et ça c'est ça, je veux dire c'est ça ce qui
oui,
a été construit
fait, tout à fait ouais. je veux pas spoiler mais le personnage principal est pas très causant, tu sais pas d'où il vient au début, tu sais pas ce qu'il veut, etc. Donc ça fait partie des choses que tu découvres au fur et à mesure des 4 premiers tomes, et dans le 5e, 6e et 7e en fait tu connais ses motivations, tu sais pourquoi est-ce qu'elles ont un peu évolué en fonction de tout ce qu'il a découvert, et surtout tous ces 4 univers en fait font partie d'un espèce de méta-univers et tu commences à c'est comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes les autres et tu commences à avoir une vision globale en fait de cet univers, et c'est une espèce d'escalade permanente où tu fais waouh tout le temps.
D'accord. Tu fais waouh tout le temps. OK, très bien. Kassim, de quoi nous parles-tu?
Alors, moi, je vais vous parler d'un dessin animé, enfin d'une série télé dessin animé, qui a été diffusée pendant quelques années sur Disney Channel aux États-Unis et en France aussi, normalement, qui s'appelle Gravity Falls, ou en français, Souvenir de Gravity Falls, parce qu'on francise tous les titres, même pour garder le même titre au final. et donc, c'est un petit dessin animé en 2 saisons d'une vingtaine d'épisodes chacun. En tout, il y a 41 épisodes, voilà, de 22 minutes, donc c'est vraiment très court. Et la série est terminée et se conclut, etc. Donc c'est vraiment, on peut regarder les 41 épisodes sans avoir peur. Voilà, c'est pas une série qui s'est arrêtée en plein milieu, quoi. Et donc ça raconte l'histoire de deux enfants, Dipper et Mabel Pine, donc qui sont deux frères jumeaux, frères et sœurs, âgés de 12 ans, qui vivent en Californie, qui se rendent à Gravity Falls. Les parents les envoient à Gravity Falls chez leur oncle. Et donc ils vont vivre en fait chez donc leur oncle est très bizarre, enfin il déteste se barrer de la Californie, ce pays, cet environnement ultra connecté et tout joli, et il se retrouve dans un peu dans le fin fond de la campagne américaine d'un coup, donc voilà, quand on a 11 ans ça doit dépayser un petit peu. Et en fait, dès le premier épisode, ils se rendent compte qu'il y a des phénomènes mystérieux qui se passent à Gravity Falls. Et en fait, la série se transforme en une sorte de... la meilleure façon dont j'avais de le qualifier, c'est une sorte de X-Files pour les enfants. Où en fait, il va y avoir chaque épisode qui va raconter une petite histoire avec c'est le monstre de la semaine, comme on dit dans les séries télé. Donc chaque épisode est un peu indépendant, va raconter une histoire avec une petite morale, etc. Et le tout construit en fait un univers cohérent qui va mener à des événements plus importants en fait, qu'on va découvrir au fil de la saison 2. Et en fait, on sent que le créateur qui est Alex Hirsch, il avait écrit la série avant de commencer, quoi. Et ça se sent en fait, le dessin animé est vraiment bien fait dès le premier. Enfin, il y a des je ne vais pas révéler de choses ou spoiler, mais en fait, dès le premier épisode, finalement, on nous apprend des choses qu'on comprendra plus tard, en fait.
C'est marrant, c'est pas du tout le type de série que j'imaginais quand j'ai vu les graphismes. C'est vraiment...
Bah, oui, parce que c'est très rond, c'est très mignon, ça a l'air un peu idiot.
Voilà. Donc il y a un humour qui est très... Il y a un fond d'humour vraiment très mignon, très, très gentil, et le design aide beaucoup sur ça. Mais par contre, enfin, ça vire même. Enfin, donc c'est une série plutôt pour les, au moins pour à partir de 10-11 ans. Et même dans la, enfin, vers la saison 2, ils ont réussi en fait à passer. Enfin, il y a des histoires aussi sur la production de la série où ils ont réussi à passer des trucs qui ont, qui normalement seraient censurés par Disney, quoi. Et ça se finit même
genre
en fin
gore
de...
ou
gore, enfin oui, vite fait, et un peu bizarre, quoi, surtout, enfin très qui peuvent perturber, je pense, un enfant. À mon avis, un enfant de 10 ans peut être un peu perturbé sur la toute fin de la série. Mais bon, c'est pas non plus traumatisant. Hein. Mais tu vois, ça me moi, ça m'a rappelé aussi un peu. Je sais que tu l'avais conseillé Avatar, le dernier maître de l'air, dans le sens où t'avais vraiment, t'as une progression de la série qui part du dessin animé vraiment pour enfants gentillets. Vers un truc vraiment mieux construit et plus mature, en fait, même si bon, ça, ça reste un dessin animé Disney, je ne vais pas non plus le survendre. Hein. ça, voilà, ça reste un dessin animé Disney en deux saisons. C'est, la comparaison avec Avatar s'arrête là. Mais vraiment, enfin, moi, je l'ai dévoré en un été, en fait. Et enfin, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et c'est une série, du coup, que je recommanderais à tout le monde. Faut pas avoir peur parce que c'est un dessin animé où vous pensez que c'est forcément trop pour les enfants, enfin qu'on va s'ennuyer, en fait. Bon, avec des enfants,
c'est pour enfants, mais pas tant que ça, quoi.
Oui, voilà, c'est vraiment. Voilà,
rassure-moi, ouais. on est plus proche de X-Files que de Scooby-Doo.
Exactement, oui, vraiment, oui. Cool. Oui. oui.
Non, parce que ouais, tu vois, le monstre de la semaine, un humour un peu léger en dessin animé, moi je pense à Scooby-Doo.
Oui, oui, oui,
c'est vrai que.
Je comprends ce que tu veux dire. Alors c'est beaucoup moins répétitif et c'est beaucoup moins, c'est vraiment le monstre de la semaine, c'est juste pour dire que les premiers épisodes sont assez indépendants, mais sinon c'est beaucoup plus intéressant, la morale est pas toujours la même et le déroulement de, la, de l'épisode est pas toujours le même comme dans Scooby-Doo.
D'accord. Okay.
Non, c'est beaucoup mieux. Mais oui, bah, oui, bah, y a un peu de ça, il y a un peu de, bah il y a du mystère, quoi. En fait, l'oncle. En fait, il possède un musée de choses mystérieuses qui est complètement un truc à touristes. C'est une grosse arnaque à touristes, en fait. Donc, il crée des. En fait, il crée lui-même les attractions. En fait, il y croit pas du tout qu'il y ait des phénomènes mystérieux dans sa vie, en fait.
D'accord.
Donc, c'est. Ouais. C'est
au fur et à mesure,
rigolo,
on se rend compte que. Ouais. Ouh, voilà, voilà, c'est fou. D'accord. Voilà. Très bien, donc ça s'appelle Gravity Falls ou Bienvenue à Gravity Falls, c'est ça ?
Non, Souvenir de Gravity Falls.
Ouais. Ok. Très bien, merci beaucoup Kassim. Et enfin, Karine, que nous recommandes-tu aujourd'hui ?
Alors, moi je vais recommander À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est une trilogie, c'est à la base une trilogie, il y a eu un quatrième livre qui est sorti, mais qui est plutôt une novella qu'un livre, qui lit en à peu près une heure. Donc c'est sorti en 95 en Angleterre, c'est typiquement une série pour enfants à la base, et qui est une critique très acerbe de du catholicisme, hein, ou de toute religion dogmatique. Donc là en l'occurrence c'est l'Église catholique, mais ça s'adresse à tout dogme, en fait. Et c'est
attends,
dans un univers.
Tu dis, oui. Alors c'est de la fantaisie ou c'est parce que tu dis
c'est
pour enfants
Oui, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie, ça se passe dans un univers différent du nôtre, où chaque personne a son âme qui est représentée par un animal qui existe à côté d'elle. Donc on ne peut pas les séparer.
Quelque chose, oui.
À la croisée des mondes, en fait, ça a été adapté au cinéma par Chris Weitz avec Eva Green et Daniel Craig. Le premier livre s'appelle Le compas d'or, je crois. Je
sais pas si oui,
en français c'est
compass,
la boussole
oui.
d'or, ouais.
Voilà, d'accord, voilà. C'est... Ok.
Donc la trilogie en elle-même, c'est À la croisée des mondes. Le premier livre commence avec Lyra, c'est une petite orpheline qui est élevée par des prêtres, et son meilleur ami disparaît. Et c'est pas le seul enfant à disparaître. Et donc elle essaye de le retrouver. Et en fait, elle découvre une machination de l'établissement, en fait, de l'Église qui est en fait l'autorité établie du monde dans lequel elle vit. Et donc, elle essaie de sauver son ami parce qu'en fait, ils font des expériences sur les enfants et ils essaient de séparer l'être humain de son âme. Et donc... Le premier tome se termine et le deuxième tome ouvre sur la Terre. Mais on retrouve toujours Lyra au centre, mais elle n'est plus le centre de l'histoire. Et c'est majestueux. C'est un des plus beaux livres à offrir à un enfant. Et c'est aussi un des plus beaux livres à offrir à un adulte.
Tu dirais que c'est enfant, je ne sais pas si tu as des enfants, mais à quel âge à peu près c'est vraiment...
Tu peux commencer dès qu'ils sont capables de lire. Hein, tu peux leur, dès qu'ils sont capables de lire correctement parce qu'il n'y a pas d'image. Tu peux leur donner à lire. C'est un Harry Potter. En fait, tu peux commencer. C'est un peu comme si tu offrais à Harry Potter. Il prendrait un livre chaque année. Voilà. Même si tu peux considérer que le 7e livre de Harry Potter n'est pas lisible par un enfant qui a commencé à 10 ans.
Mmh. Oui. Oh, 7e quand même, ça va, 17 ans.
Justement, c'est. Ouais, justement.
Non, oui, voilà, c'est ça.
Mais tu ne veux pas donner le 7e à un enfant de 10 ans.
À 10 ans, oui,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai que les Harry Potter ont grandi avec leur public, comme on dit souvent. Et là, c'est un peu le cas aussi, ça, les thèmes.
Non. L'idée de Pullman, c'est de permettre à l'enfant... En fait, ce qu'il voulait, c'était donner à l'enfant les clés pour être capable d'analyser une situation. Donc là, pour lui, c'était l'Église catholique. Il a dû vivre une enfance qui n'était pas évidente, peut-être dans un clou. Il a peut-être été élevé par des jésuites, je ne sais pas. Et pour lui, c'était l'ennemi principal. Dans le film, c'est pas du tout le cas, hein. Parce que c'est un film qui a été financé par Hollywood et il n'était pas possible de parler de religion. Donc, on est passé de religion à des sociétés. Mais l'idée est la même. Donc, en fait, c'est l'autorité, que ça soit sociétale ou enfin que ça soit une société qui gagne de l'argent ou une église, c'est pareil.
D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée, effectivement, de comprendre et de questionner l'ordre établi et le dogme.
Exactement.
D'accord. Ah, ça a l'air intéressant, effectivement. Donc, ça s'appelle À la croisée des mondes de Philippe Pullman en français, oui. Oui, on donne généralement les titres français quand même. Mais...
Et les livres ont été d'abord adaptés au théâtre. Ça durait 6 heures. C'était en deux représentations. C'est un peu comme Harry Potter à l'heure actuelle. Hein. Il y a deux sessions pour Harry Potter en Angleterre, au théâtre. En 2017, normalement, il y a la série qui arrive sur la BBC. Donc là, ça peut être intéressant. Et Pullman, bien sûr, fait partie intégrante de l'équipe de scénaristes.
D'accord. Bon, bah, surveiller.
C'est produit par l'équipe qui a fait Doctor Who.
Possible.
De la BBC.
Oh bah c'est bon, on y va.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, il suffisait de dire ça, il y a des gens qui sont convaincus. Très bien. D'accord, bah merci beaucoup Karine. On vous rappelle de ce dont on a parlé aujourd'hui. Bien sûr, vous l'avez quand même dans les notes, hein, mais c'est Good Morning Call, Les Portes de la Mort, Gravity Falls et À la croisée des mondes. J'espère que vous avez de quoi faire là, hein, quand même. Et avant de se séparer, bien sûr, comme toujours, on va proposer à nos animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Diraen, go ahead.
Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables avec Diraen, D-I-R-A-E-N, et aussi dans mon merveilleux podcast qui traite de la parentalité geek, ABCD Podcast.
Parentalité geek, c'est pas mal ça,
oui,
comme terme.
Oui, je tente des nouvelles formules à chaque fois, il y a un moment j'ai trouvé un truc qui marche bien.
Oui, non mais
si tu es geek... Et si tu es parent, ou si tu es geek, ou si tu es parent, tu peux écouter ABCD Podcast. En fait, il faut écouter ABCD Podcast.
Non, mais j'allais dire, si tu n'es ni geek ni parent, est-ce que tu peux ?
Oui, parce que de toute façon, t'es probablement un oncle, une tante, tu as des amis geeks, bref, écoute ABCD Podcast.
C'est le message qu'il faut retenir, en fait.
C'est bon pour la santé.
D'accord, très bien, merci d'Irène. Kassim.
On peut me, moi je vais, cette fois j'ai plutôt parlé aux réseaux sociaux. On peut me retrouver sur Twitter @notcassim, NOTCA2SIM.
Merci Kassim. Karine.
Bon, on recommence. Donc je vais dire que c'est je suis la rédactrice en chef de l'encyclopédie française sur les fictions et ça s'appelle A2NUSERIES. Je le dirai pas à voix haute.
Dis, c'est Manuel de série.
Voilà, exactement. Mais c'est sous l'ombrelle asuivre.org, donc ça c'est plus simple. Et on a deux grands sites, on a Perdusa, qui fait que de la critique de série et nous qui font que de, du guide et de la news.
Mais tu sais quoi, voilà. je mettrai dans les notes de l'émission le Twitter de la, l'annuaire des séries. D'accord. Comme ça, les gens pourront y avoir accès facilement.
Et celui de Perdusa qui est aussi sur, sur Twitter.
D'accord. Très bien. Et donc, excusez-moi, je me perds en pensant à ce que je dois faire. Ah, merci, Irène. Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook et FrenchSpin.fr pour cette émission et toutes les autres que je produis, dont le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu. Au hasard, si vous voulez suivre l'actu tech et l'actu jeu vidéo, bah, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.
Ciao. Thank you.